Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Hélène Destombes.
Le pape François, désigné personne de l'année par le magazine américain Time, tout comme ses prédécesseurs Jean XXIII et Jean-Paul II, le père Lombardi évoque un signe positif, vous l'entendrez dès le début de ce magazine. Comme chaque mercredi, le Saint-Père préside l'audience générale, devant des dizaines de milliers de fidèles, il s'est attardé sur le sens profond du jugement dernier. Dans cette édition également, gros plan sur une exposition photographique qui se tient actuellement dans nos locaux, dans le cadre de l'initiative Why Poverty, et témoignage de Mgr Celli qui évoque le succès du compte Twitter Pontifex un an après son lancement. Bienvenue dans ce magazine. Le pape François est élu ce mercredi personne de l'année 2013 par le magazine américain Time. C'est un signe positif, a déclaré le père Federico Lombardi, et qui n'est pas étonnant étant donné la très grande attention suscitée par l'élection du pape François et le début du nouveau pontificat. Le Saint-Père, précise le directeur du bureau de presse du Saint-Siège, ne cherche ni la célébrité ni le succès, mais il se réjouit si cette reconnaissance signifie que beaucoup ont compris, tout du moins implicitement, le message de l'amour de Dieu pour tous. On écoute le père Lombardi.
Je pense qu'il soit un signe positif car ça veut dire qu'il y a dans le monde une grande attention pour une personne qui annonce des valeurs qui sont des valeurs spirituelles, des valeurs moraux, des valeurs humaines très importantes, qui s'engagent pour la paix et pour la justice et qui est près des pauvres. Alors ça, c'est une chose bonne et positive. Le pape même, naturellement, il ne cherche pas les succès ou les honneurs, mais son service est un service d'annonce de l'évangile de l'amour de Dieu pour tous. Mais si cette déclaration signifie que beaucoup, un grand nombre de personnes entendent le message de l'amour de Dieu pour tous comme un message très important pour l'humanité, alors ça c'est un bon signe et le pape peut en réjouir de ça.
Comment le pape François a-t-il réagi à cette annonce?
Le pape ne désire pas de succès humain, mais il cherche que tout le monde entende l'annonce de l'Évangile. Si cela serve à cette fin, alors bien, on peut l'accepter volontiers.
C'est un signe positif en faveur de la nouvelle évangélisation. Cela peut permettre aussi de sensibiliser à des thèmes qui sont chers au Saint-Siège, à l'Église.
Nous l'espérons, naturellement. Il faut bien comprendre quelle est la raison la plus profonde de l'attrait du message du pape comme message fondamental d'amour de Dieu pour chaque personne, pour toute l'humanité. N'est pas quelque chose qui soit d'une nature plutôt humaine ou matérielle ou superficielle, n'est pas la recherche d'un succès humain ou idéologique.
François est le troisième pape à avoir été nommé personne de l'année par la revue Time, après Jean XXIII en 1962 et Jean-Paul II en 1994. Quelques 30 000 personnes étaient rassemblées ce mercredi place Saint-Pierre pour assister à l'audience générale. Nouveau bain de foule pour le pape François qui était accueilli très chaleureusement. Le Saint-Père a une nouvelle fois consacré sa catéchèse au credo et à l'affirmation « Je crois en la vie éternelle ». Il s'est attardé en particulier sur le jugement dernier, indiquant que l'homme pouvait se condamner lui-même en refusant de s'ouvrir à l'amour de Jésus. Olivier Bonnel.
L'homme, en contemplant les paroles de Jésus sur le jugement dernier, ressent souvent comme une crainte, a fait remarquer le pape, une crainte face à un mystère qui nous dépasse, que nous ne réussissons pas à imaginer. Mais a-t-il expliqué, en se basant sur des passages de l'Évangile, sur les épîtres de saint Paul aux Corinthiens et l'Apocalypse de saint Jean, si nous pensons au jugement dernier dans la perspective d'arriver à la plénitude et entre les bras de Dieu, et si nous considérons qu'à la fin des temps nous ne serons pas laissés seuls, la crainte disparaît et l'on ne doit plus craindre le jugement dernier. Si nous nous fermons à l'amour de Jésus, a poursuivi le Saint-Père, nous nous condamnons nous-mêmes. Le salut, c'est de nous ouvrir à Jésus qui nous sauve. Et cela même si nous sommes pécheurs, et nous le sommes tous, a indiqué le pape. Demandons pardon et allons de l'avant en pensant à ce jugement, avec un cœur ouvert et sans peur. L'amour de Jésus est plus grand, il nous pardonne, allons de l'avant avec cette certitude. Nous ne devons pas avoir peur de mourir, a-t-il poursuivi, parce que le Seigneur nous sauve. Mais nous devons nous ouvrir, nous repentir, regretter les mauvaises choses que nous avons faites, et ce sera très beau. Le jugement dernier, a encore expliqué le pape, est déjà en cours. Il commence maintenant, durant notre existence. Il est prononcé chaque jour. C'est Jésus lui-même, dans l'évangile de saint Matthieu, qui nous annonce qu'à la fin des temps, ceux qui l'auront suivi prendront place dans sa gloire pour juger avec lui.
À l'issue de l'audience générale, le pape François a renouvelé son appel à éliminer la faim dans le monde, qui constitue une injustice. Il s'exprimait au lendemain du lancement d'une vague de prières mondiale contre la faim par l'organisation Caritas Internationalis. Le scandale de la faim, qui touche 1 million de personnes, ne doit pas nous paralyser, mais nous pousser à agir, a déclaré le pape, soulignant que nous sommes tous concernés, familles, communautés, institutions, gouvernements. Le Saint-Père, qui encourage la Caritas à mener à bien son engagement, invite donc chacun à s'unir à cette vague de solidarité. Dans un message vidéo diffusé mardi, le pape François invitait au partage, souhaitant l'avènement d'un monde dans lequel personne ne meurt plus jamais de faim. Par ailleurs, à l'approche de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe, patronne des Amériques, le Saint-Père a adressé un message aux fidèles de ce continent. Il les a invités à être toujours une terre où des peuples différents peuvent vivre ensemble, une terre capable de respecter la vie dans toutes ses phases, capable d'accueillir les migrants, de même que les pauvres et les marginaux. Oublier les pauvres, c'est l'une des thématiques chères au pape François, qui prononça cette phrase dès son élection au siège de Pierre. Depuis un an, Radio Vatican se joint à l'initiative de l'Union européenne de radio-télévision intitulée « Why Poverty ? Pourquoi la pauvreté ?» qui vise à sensibiliser à ce problème majeur. Une question devenue universelle, la pauvreté se voit aussi bien à Kinshasa que devant une gare de Rome, au Bangladesh, mais aussi sur un trottoir de Paris. Parmi les nombreuses initiatives, des expositions photographiques. Ce mercredi, l'une d'entre elles était inaugurée dans les locaux de Radio Vatican. Une trentaine de photos qui témoignent de situations de pauvreté dans le monde entier et qui sont l'œuvre d'un collectif de photographes. Elles sont accompagnées de citations des papes, de Paul VI à François. Olivier Bonnel a rencontré Amélie Sofietti, l'une des photographes qui expose. En commentant ces photos, elle nous livre son regard sur son travail et sur la pauvreté.
Ça, c'est une photo que j'ai prise au début de cette année à Rio de Janeiro, une favela qui s'appelle Santa Marta. Nous pouvons voir donc un enfant. Mais la chose étrange, c'est que 2 heures après que j'ai pris cette photo, il a commencé à pleuvoir et c'était presque impossible de sortir de la favela. Le jour après, on a lu dans le journal que 2 personnes, elles étaient mortes, noyées. On avait l'eau jusque-là, c'était impossible. On cherchait de s'appuyer au mur des maisons, mais il y avait de l'électricité qui sortait. Et donc, on ne pouvait même pas toucher là. C'était incroyable. Donc, pour moi, c'est un peu particulier, cette photo. Parce qu'ici, on s'aperçoit de la pauvreté, mais on ne sait pas que 2 heures, 3 heures après, il y avait quelqu'un qui allait mourir noyé dans l'eau, dans la favela. Et c'est là que je l'ai pris.
Une autre photo dans un autre contexte.
Là, on est à Rio de Janeiro et ici, on est à Roma Termini. Donc, on est à la gare. Et moi, j'étais en train de prendre un train pour aller quelque part. Et le monsieur, c'était le mois d'août, il y avait 40 degrés, on crevait de chaleur. Et lui, il était là, il cherchait de la fraîcheur. Vous pouvez bien voir qu'il s'était étendu avec un drap, quelque chose en dessous de lui, assez propre. Mais où ? À la gare. Et autour de nous, il y avait tout simplement des gens qui pensaient d'aller à la mer.
Un lieu où les gens passent mais ne regardent pas forcément.
Non. Et là, par exemple, il y en a une qui est très intéressante. Ça, c'est une photo que je trouve emblématique. C'est-à-dire que...
Où elle a été prise ?
Ça, c'est un copain, c'est Emmanuel Cerruti qui l'a fait. Mais moi, je trouve qu'ici, on comprend tout. Donc, on a 2 personnes, un homme et une femme, qui sont par terre, dans la pauvreté plus totale.
Devant un distributeur de billets en Espagne.
Devant un bancomat. Donc, on a les deux personnes dans la pauvreté plus totale qui cherchent de dormir. Nous pensons qu'ils cherchent de dormir. Et lui qui donne une caresse, donc un geste de tendresse entre les deux. Et tout cela se passe en dessous d'un bancomat, plein de lumière et de sous. Donc je pense qu'ici, on a tout ensemble un concept très bien exprimé.
Le contraste pauvreté-richesse et en même temps un geste de douceur et de tendresse dans ce monde très dur.
Ça, c'est le monde d'aujourd'hui. Et ça peut être à Paris, à Madrid, Rome, n'importe où. Parfois, regarder avec un œil différent, ça nous donne l'opportunité, ça peut être d'ouvrir les cœurs. Je ne sais pas. Mais on tâche de faire quelque chose aussi avec notre yeux qui vont aller, j'espère, au cœur.
Amélie Sofietti, photographe au micro d'Olivier Bonnel. Décembre 2012, Benoît XVI lançait officiellement le compte Twitter Pontifex. Un an après sa naissance, il est désormais décliné en 9 langues et rassemble 11 millions d'abonnés. Aujourd'hui, les brefs messages du pape François touchent au moins 60 millions de personnes. Grâce aux retweets, se réjouit le président du Conseil pontifical pour les communications sociales. Monseigneur Claudio Mariacelli salue ce succès et évoque la vision clairvoyante et positive du pape émérite.
Pour moi, la décision prophétique du pape était de vouloir être présent dans le monde, dans un contexte numérique et dans les grands continents numériques où habitent des millions de personnes, d'annoncer l'évangile et de le faire avec un langage qui est facilement compris. Parce que c'est le langage surtout des jeunes. Dans une situation de désertification spirituelle, une goutte d'eau fraîche peut aider l'homme à faire face aux difficultés de la vie et à retrouver un peu de paix et de cette proximité de Jésus dans sa vie. Nous qui avons des moyens de communication très sophistiqués, le grand problème que nous avons est la solitude. Bon, aussi un petit tweet du pape peut nous aider à vaincre la solitude et faire nous percevoir que nous sommes aimés par Dieu d'une façon profonde, étonnante, et qu'il nous a donné son Fils bien-aimé. Bon, alors, bienvenue les tweets et bienvenue à tous ceux qui les retweetent pour partager ce petit message avec ses amis.
Des propos recueillis par notre confrère italien Alessandro Gisotti. En parlions dans notre précédente édition, les Dominicains de Lille organisent pour la deuxième année consécutive l'initiative L'Avent dans la ville, une retraite sur Internet proposée gratuitement afin de se préparer à célébrer la nativité. Pour mieux comprendre le déroulement de cette retraite pour internautes, nous allons suivre jusqu'à Noël la préparation d'une famille. Chaque semaine, nous ferons un point avec eux, notamment pour savoir ce que leur inspire cette période de l'Avent. Rencontre avec la famille Doucet, composée des deux parents et de leurs 5 enfants, qui vit à côté de Lille, dans le nord de la France. Un sujet réalisé par Audrey Radondi.
C'est la deuxième fois que la famille Doucet suit la retraite d'Avent dans la ville. Et cette année, ils veulent approfondir cette démarche pour être plus centrés sur la naissance de Jésus. Karine Doucet raconte sa première semaine.
Tous les jours de la semaine, j'essayais de prendre quelques minutes pour m'isoler, pour écouter calmement cette méditation et pouvoir y réfléchir pendant la journée. Aujourd'hui, c'était sur l'écoute. C'est dire écouter les autres plus, écouter Dieu quand il nous parle. Pour moi, c'est important de chaque jour retrouver cette méditation.
Et elle apprécie que ses enfants puissent y participer.
Alors, cette semaine, on a suivi le chemin de préparer la maison. Et justement, je trouve que les chemins pour les enfants leur permettent d'être acteurs et de pas uniquement être passifs et de regarder ce qui se passe. Ils agissent dans ce chemin, dans cet avant, et tous les jours, ils comptent les jours en attendant que la Sainte Vierge mette au monde ce petit bébé.
Chaque année, c'est en famille qu'ils vont choisir des santons pour la crèche au marché de Noël de Lille. Jean-Baptiste, 12 ans, est l'aîné. Il explique comment ils font ce choix.
Déjà, on se dit ce qu'ils pourraient aller bien dans notre crèche, pour associer des personnages entre eux, ou un peu quelque chose de symbolique. Par exemple, là, cette année, on a acheté deux personnes âgées, un couple. Donc le couple, bah, ça représente un peu les liens, voilà. On achète les loups, aussi un moine, et on se dit que bah, le moine, c'est Saint François d'Assise. Et le loup, bah, voilà, son cœur est changé par Saint François d'Assise, et puis ouais, il va voir Jésus à la naissance.
Et une fois les santons installés dans la crèche, tous les jours, il se passe quelque chose.
Chaque soir, nos parents bougent les santons, et chaque matin, on voit la crèche avec les santons qui étaient bougés. On essaie de deviner, on se raconte un peu des histoires sur comment sont les santons. Voilà.
Et la naissance de Jésus interroge les plus jeunes.
En fait, la question principale, c'est est-ce que c'est Jésus qui posait des cadeaux dans nos dans la maison, est-ce que c'est le Père Noël qui nous met des cadeaux dans la maison.
Et alors, qu'est-ce que tu as répondu?
Déjà, j'aurais dit bah en même temps les cadeaux, c'est pas le truc principal de Noël, c'est surtout penser plutôt à la venue de Jésus, à s'y préparer. J'essaie un peu de leur expliquer quand même que c'est grâce à lui qu'on a eu Noël un peu. C'est grâce à lui qu'on a eu notre vie. C'est grâce à lui qu'on a eu pas mal de choses, qu'on a eu de la chance de vivre ici, que notre monde a réussi à exister grâce à lui. Voilà.
Et après cette semaine consacrée à la décoration de la maison aux couleurs de l'Avent, pour cette deuxième semaine de retraite, il leur est proposé d'écrire quelques mots à des amis ou à de la famille.
Audrey Radondi. Philippines peinent à se reconstruire un mois après le passage dévastateur d'Ayan. Le 8 novembre dernier, le typhon s'abattait sur l'archipel, faisant 5800 morts et 1800 disparus. Le temps de la première urgence est aujourd'hui passé, mais les besoins restent immenses. Arthur Massier-Dubiest est volontaire depuis 2 ans aux Philippines, envoyé par l'ONG Enfants du Mékong dans l'association ACEI, qui s'occupe de la réinsertion sociale des jeunes prisonniers à Manille. Face aux dommages causés par le typhon, l'association est depuis une semaine à Tacloban, l'une des villes les plus touchées, pour aider les habitants à se reconstruire psychologiquement. Écoutez son témoignage.
Aujourd'hui, c'est clair qu'au niveau de la nourriture, ils ont ce qu'il faut. Par contre, les gros problèmes, ça va être au niveau du logement. Où toutes les maisons sont complètement rasées. Ici, c'est un véritable désert. Puis leur outil de travail, les 3/4 des Philippins ne peuvent plus travailler aujourd'hui parce qu'ils n'ont plus d'outil de travail, qui a été aussi ravagé par le typhon. Donc il y a énormément de besoins, je pense que c'est au niveau matériel, pour la reconstruction des maisons, puis aussi pour relancer l'activité économique.
Au-delà du matériel, au-delà des maisons à bâtir à nouveau, c'est vraiment les esprits qui sont à reconstruire.
C'est vrai que niveau psychologique, c'est terrible. Ils sont vraiment très très affectés, et puis c'est des histoires qui sont véritablement atroces. Il y avait quand même des vagues qui sont arrivées chez eux, qui faisaient plus de 20 mètres, qui ravageaient vraiment les maisons. Les 3/4 de ces personnes-là ont perdu des proches dans des situations assez catastrophiques. On avait du mal à imaginer avant de venir ici. Ils ont passé des heures vraiment atroces, et ça les a marqués durablement. Ils ont perdu tous leurs biens. Les Philippines, ils ont l'habitude de subir de nombreux typhons. Là, c'était un typhon extrêmement puissant et du coup, ça les a vraiment affectés. Et à la moindre alerte, on sent vraiment le traumatisme qu'il y a derrière.
Malgré le traumatisme, malgré les histoires que vous avez pu entendre, est-ce qu'il y a malgré tout le désir de continuer, l'espérance?
Moi, ce que j'ai entendu suite au typhon, il y a eu 2-3 jours vraiment terribles, où les gens, à la suite de ce typhon, étaient complètement perdus. Et là, ce qu'on peut ressentir, c'est que petit à petit, la vie reprend le dessus, ce qui fait énormément plaisir, et puis de voir aussi cette force des Philippins qui, malgré toute cette dureté, arrive malgré tout à sourire à la vie. Quand ils nous voient arriver, ils nous affichent souvent un très grand sourire. Alors évidemment, ce très grand sourire, en règle générale, il cache un traumatisme énorme. Mais il y a quand même cette envie de se reconstruire. Mais malgré la meilleure volonté du monde, ils ont clairement besoin d'aide extérieure parce qu'il y a énormément de choses à faire dans la région de Tacloban.
Des propos recueillis par Jean-Baptiste Cocagne. En Inde, Monseigneur Anil Joseph Thomas Couteau, archevêque de New Delhi, a été arrêté ce mercredi par la police en compagnie d'évêques d'autres confessions. Il participait avec d'autres responsables et de nombreux laïcs à une marche pacifique en faveur des droits des Dalits. D'autres participants, dont des religieuses et des prêtres, ont été agressés par les policiers. Une information relayée par l'agence Fides, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi.